Regarde toujours, je l'oublie. Allez.
Que le Seigneur vous bénisse.
Bon, il y a un petit peu plus de monde qu'au début. C'est toujours curieux quand on commence le culte, puis on tourne le dos à l'assemblée, puis quand on se retourne, tiens, c'est plus la même assemblée. C'est mieux qu'il y ait plus de monde. Ben merci Seigneur pour ta parole, merci pour les corbeilles puisqu'elles sont passées, merci parce que c'est ce que chacun, c'est un signe de la consécration de chacun et de chacune. Et Seigneur, merci pour cette parole qui nous est donnée, merci parce qu'elle est bonne, merci parce qu'elle est un fondement solide, quelque chose qui nous relie à toi, cette parole. Et Seigneur, nous te prions qu'elle produise réellement cet effet de nous lier à toi et de nous apprendre, Seigneur, à vivre selon notre vocation humaine qui est d'être en communion avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous avez un monde qui vous dit que la vocation de l'homme, c'est de se développer par lui-même et à partir de lui-même. Et vous avez une parole de Dieu qui vous est dit que l'homme a été créé par Dieu. Et il a la vocation de se développer dans la communion avec le Seigneur. C'est vraiment il faut choisir entre les deux. Il faut vraiment choisir le point de vue. Voilà, j'ai choisi de vous parler du prophète Agée. Alors j'ai demandé à Jean-Michel, ça m'arrive de temps en temps de prêcher là-dessus. Je crois avoir prêché, mes archives disent que j'ai déjà prêché ici sur le prophète Agée, mais il y a longtemps. Et Jean-Michel, il me dit que peut-être t'as prêché il y a moins longtemps. Je ne sais plus, tu ne sais plus quand. Bon, peu importe. Donc, sur le prophète Agée, justement, parce que notre Église a un tournant où il va se passer des choses nouvelles, probablement une période nouvelle. Et donc, je vais vous dire le contexte du prophète Agée. Il a prophétisé, c'est l'un des derniers prophètes, après la période de l'exil. Vous savez, Israël a été détruit, vaincu. Le temple a été détruit, ils ont été déportés à Babylone, et cette déportation a duré 70 ans, c'est quand même un peu long, et au bout de 70 ans, ils ont eu la permission de revenir. Et ils l'ont fait, pas tous, mais certains. Et donc ils reviennent dans le pays de Judée, qui était un peu ravagé, il fallait tout refaire, tout reconstruire. Il y avait c'était l'Empire perse à l'époque, il y avait un gouverneur qui s'appelait Zorobabel, on en parle là. C'était bien quand même parce que l'empereur de Perse avait mis un gouverneur juif sur la province juive autour de Jérusalem. Donc quand même, il pouvait se permettre de se redévelopper, mais ce n'était pas facile. Et voilà ce que dit à cette époque-là le prophète Agée. La deuxième année du règne du roi Darius, vous voyez, c'est le roi de Perse. Le premier jour du sixième mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agée. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce temple prétendent « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agée. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin et sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes et sur le bétail, sur tout le fruit de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le peuple écoutèrent la parole de l'Éternel. Et il y a des moments comme ça. Écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu, ils écoutèrent les paroles du prophète Agé que l'Éternel leur Dieu leur avait envoyées, et le peuple révéra l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Vous voyez, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Moi, je suis toujours émerveillé avec... Vous allez voir, c'est comme c'est bref. Moi, je suis avec vous. L'Éternel le déclare. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 16e mois de la deuxième année du règne de Darius. Moi, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Qu'est-ce que c'était le 24e jour du sixième mois de la deuxième année du règne de Darius ? Vous voyez ? Mais c'était important. C'était important parce que ce jour-là, ils se sont mis à l'ouvrage, ils ont changé d'attitude, ils ont changé d'attitude de cœur, et aussitôt, ils se sont mis au travail. Alors, vous voyez, il y a tous les personnages. J'ai lu que le premier chapitre, Agé, c'est deux chapitres, c'est très bref. Je lirai une partie du deuxième chapitre après. Vous savez, il y a le prophète, il y a Zorobabel, le gouverneur. Il était descendant des rois de Juda, mais il n'était pas roi, il était gouverneur, c'est déjà pas mal. Il y avait Josué, le grand prêtre. Grand prêtre de quoi ? Il n'y avait plus de temple. Il n'y avait plus de sacrifice. Vous voyez ? Et puis il y avait le peuple qui se réinstallait dans la région de ses ancêtres et qui, on nous le dit bien, s'en sortait pas bien. Ils avaient les récoltes, ça marchait pas bien. Ils n'étaient pas très matériellement satisfaits. Et c'est pour ça qu'ils disaient, il n'est pas temps. Ce n'est pas le moment de reconstruire le temple. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on est petit, parce qu'on est faible, on est insuffisant. Même plus tard, je ne vais pas développer ça, on disait en plus, vous êtes impurs. Et nous, on est quoi là-dedans ? Vous voyez, et moi, ça me frappe comme tout est petit là-dedans. Zorobabel, ancêtre des rois de Juda, était un petit gouverneur d'une petite province. Le grand prêtre, il n'avait plus de temple pour exercer son activité. Le peuple, ils avaient déjà du mal à s'occuper de leur propre maison, de leur propre champ. Et Agé, c'est l'un des plus petits prophètes. Est-ce que ce n'est pas le plus petit en volume ? Il se peut bien que ce soit le plus petit. Vous voyez, tout est petit là-dedans. Et c'est pour ça, ce n'est pas parce que les gens étaient de mauvaise volonté qu'ils disaient que ce n'est pas le moment de reconstruire le temple du Seigneur. C'était parce qu'ils n'avaient pas les moyens, c'est tout. C'était au-dessus de leur force. On leur demandait quelque chose de trop. Et puis le prophète dit, si, il faut vous mettre au travail. Et puis ils écoutent la parole du Seigneur. Et puis le Seigneur leur dit, je suis avec vous. Comment il faut se contenter de peu, quelquefois, hein ? Pour ça, je dis, la parole, elle aussi, elle est petite. Le Seigneur leur a dit une chose, je suis avec vous. Et ils se mettent au travail pour reconstruire le temple du Seigneur. Moi, j'aime bien l'histoire, les dates, les calculs. Le premier temple, vous savez, le temple glorieux de Salomon. Et là, c'est ce qu'on appelle le deuxième temple qui sera reconstruit et qui va durer jusqu'à Jésus-Christ et un petit peu après. Le deuxième temple, il a duré plus longtemps que le premier. Les deux ensemble, ils ont duré à peu près 1000 ans. C'est tellement loin qu'on ne se rend pas compte, mais enfin, il y a eu un temple à Jérusalem pendant 1000 ans, avec une interruption. Le deuxième temple a duré jusqu'à Jésus-Christ. Et il a comment dire, il a eu l'honneur, ce deuxième temple construit avec des débuts tellement modestes, il a eu l'honneur d'accueillir le Seigneur. Et depuis, il n'y a plus de temple, parce que je crois bien sûr que le temple aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Hein. Et c'est rien d'autre, il n'y a plus besoin de temple, c'est en lui qu'est accompli le sacrifice. Alors, il est temps. Le temps de quoi ? Le temps de réussir sa vie ? Je suppose que tout le monde a le souci de réussir sa vie, autant que possible. Et moi, je vous demanderai, mais je ne vous demanderai pas pour que vous y répondiez là sur le champ, pour que chacun se le demande à lui-même, est-ce que vous réussissez effectivement votre vie ? Vous voyez, mais j'ai simplement recensé quatre domaines. Tu vois, moi aussi, il va falloir que je ressuscite. Enfin bon, je ne sais pas. La famille. Est-ce que votre famille, ça réussit ? Ne me répondez pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Même ceux qui réussissent plus ou moins, ils savent à quel point il y a des moments où on a l'impression que ça ne réussit pas, qu'il y a des problèmes graves dans la famille. On est modeste. On a intérêt à être modeste. On est obligé d'être modeste. Ce n'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que, voilà, est-ce que j'ai fait ce que le Seigneur attendait de moi dans ma famille ? Est-ce que j'ai été béni ? Ouais, mais quelquefois, le travail. Si c'est bien, si vous avez du travail et que ça se passe bien, bénissez Dieu, réjouissez-vous. Mais ce n'est pas tout le monde, n'est-ce pas ? C'est pas, on n'a pas toujours ce dont on a besoin. La santé. Vous êtes en bonne santé ? Je vous souhaite que ça dure très longtemps. Il y a des moments où ça ne va pas, ou ça ne va plus. Et quand ça ne va pas et que c'est durable, quelquefois, voilà encore. Et ou alors, qu'est-ce que j'ai écrit là ? Ouais. Parce que quand on parle de la santé, on parle du corps. Mais est-ce que vous avez le moral ? Est-ce que vous êtes heureux ? Bon, d'accord, on n'a pas tout ce qu'on veut, on est imparfaits tous, mais est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous pouvez dire, j'ai une vie dans laquelle j'ai du bonheur, il y a une lumière dans ma vie, il y a quelque chose qui se passe ? Vous voyez, quelquefois, vous répondrez oui à ces questions. Mais oui, mais vous direz oui, mais pas toujours, mais peut-être ça n'a pas toujours été, et je ne suis pas sûr que ça sera toujours. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on est comme ces gens. On est tous comme ces gens qui disent « Ah, bâtir le temple de l'Éternel, bâtir l'Église de Jésus-Christ, celle qui doit évangéliser le monde. » Est-ce qu'on en a les moyens ? On veut embaucher un pasteur et le payer, payer cher. Hein ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Voilà, on a des choses, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils rentrent dans cette salle, ils disent « Ah, c'est bien ici, vous avez des beaux locaux. » Bon, donc, il faut se réjouir de ce qu'on a. Ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Hein. Il y a eu un certain travail derrière tout ça. Et puis, des fois, ça s'écroule un peu, il faut y revenir. Mais on est modeste et il y a le prophète qui est là et qui dit « C'est le temps de construire la maison de l'Éternel. » Pourquoi il dit ça ? Et il dit même, vous voyez, Dieu dit, jusqu'à là, vous avez récolté et j'ai soufflé dessus. Ça, c'est dur. Dire, bon, vous avez fait des efforts pour réussir votre vie, et puis vous n'avez pas bien réussi, ou un petit peu, c'est ambigu. Mais si c'est le Seigneur qui vous dit, moi, j'ai détruit une partie de ce que vous avez fait. Alors là, parce qu'en plus, à la rigueur, si c'est parce que je n'ai pas bien travaillé, je peux dire, bon, je vais faire un effort, je vais essayer de travailler mieux. Mais si c'est le Seigneur qui se met à détruire mes affaires, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Là, c'est grave. C'est au-delà de nos capacités de réponse. Eh bien oui, tout ce que le Seigneur nous demande, et ça, c'est la leçon spirituelle. Tout ce que le Seigneur nous demande, notre vocation divine, notre vocation humaine, il n'y a pas de différence entre les deux vont ensemble, eh bien, porte sur des choses qui nous dépassent. Ça nous dépasse de réussir notre vie de la même manière que ça nous dépasse de réussir à faire l'Église. On ne le fera pas tout seul. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne nous saisir, nous changer. Et ce quelque chose qui vient, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit « Commencez par l'essentiel, construire le temple de l'Éternel ». Et qu'est-ce que Jésus dit d'autre quand il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus ». Voilà un message simple que vous avez déjà entendu. Qui disait ça ? C'est à la réunion de prière que tu disais ça. Si vous venez à la réunion de prière, vous entendez des choses aussi. Le Seigneur, il y a des choses qu'on a déjà entendues et que le Seigneur nous dit et qu'il faut réentendre. Et les gens écoutent et les gens se mobilisent. Et l'Éternel anima d'un nouveau zèle, qui ça ? Tout le monde, Zorobabel, Shealtiel et tout le peuple. Moi, j'aime bien parce qu'il se passe quelque chose qui vient du Seigneur, d'un nouveau zèle. Quand on ne réussit pas, quel que soit le domaine de sa vie, ou que ce soit l'Église, eh ben, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir demain mieux qu'hier ? C'est pas, il faut quelque chose de nouveau. Il faut un nouveau zèle. Et c'est le Seigneur qui va nous animer d'un nouveau zèle. Et moi, je peux le dire parce que ça m'est arrivé, mais il faut que ça m'arrive encore. Il faudra que ça m'arrive encore. Quand on est découragé et qu'on ne voit plus ce qu'il faut faire, eh bien, quelquefois, simplement parce qu'on a dit « oui, ben, je resterai fidèle au Seigneur », il y a un nouveau zèle qui vient et vous ne savez pas d'où ça sort. Parce que ce n'est pas rationnel, c'est pas raisonnable, c'est pas normal. C'est pas normal, des fois on devrait déprimer. Des fois, je ne sais pas pourquoi je ne déprime pas. Des fois, je déprime aussi. Des fois, je ne sais pas pourquoi j'ai un nouveau zèle. Ça vient du Seigneur et c'est accompagné d'une parole du Seigneur qui dit « Je suis avec toi. Je suis avec vous. » Voyez la simplicité de ce message de Agé. Je dis ça parce qu'on va avoir une nouvelle période. C'est à Jean-Michel d'expliquer comment on envisagera les choses, etc. Mais moi, ce que je veux dire un peu, c'est dans quel état d'esprit nous sommes appelés à le vivre. Nous avons, Seigneur, besoin de quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau est associé, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, simplement à notre pétition de fidélité, je dirais comme ça. Parce qu'on ne peut pas se vanter, moi je ne vais pas me vanter en disant « moi je suis fidèle, j'ai la foi ». Non, ne vous vantez de rien, nous sommes tous imparfaits, mais même et surtout dans ce domaine-là. Mais l'acte de foi de dire « j'aurai la foi », l'acte de foi de dire « je serai fidèle » et va avec cette parole du Seigneur « je suis avec toi ». Alors, je vais juste encore lire un passage, parce que sinon on peut faire une étude biblique sur Agé, hein, ça vaudrait la peine. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, vous n'avez qu'à demander. Hein. Je vais juste lire le verset 14 du chapitre 2. Alors Agé reprit, parce que voilà, dans ce livre, il y a des paroles du prophète Agé, comme il en a dit peu, et comme ces paroles ont accompagné quelque chose qui était petit au début, mais qui a grandi, qui a porté son fruit. Agé répondit, « Ainsi en est-il de ce peuple ? Voilà ce qu'est cette nation à mes yeux. » Zut, si je lis, oui, c'est ça. « L'Éternel le déclare, ainsi en est-il aussi de toute leur réalisation, de tout ce qu'il m'offre là, c'est impur. » Ah, ça est précédé d'un passage où il discute avec les prêtres pour savoir ce qui est pur et ce qui est impur. Ben, Agé dit, de la part du Seigneur, tout ce qu'ils font, tout ce qu'il m'offre, c'est impur. Vous vous faites des illusions ? Est-ce que tout ce que je fais est impur ? Parce que je suis moi-même sans cesse, je ne suis pas parfait. En rien, je suis parfait. Et tout ce que j'apporte au Seigneur, c'est impur. C'est imparfait. C'est contaminé. même avec les bonnes intentions, c'est contaminé par toutes sortes de mauvaises choses qui subsistent en moi, auxquelles je me frotte. Tout, c'est impur. Mais pourtant, juste après, il est dit ceci. « Maintenant, considérez bien ce qui se produira à partir d'aujourd'hui. Avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux, mais il n'y en avait qu'un. Vous vous rendiez au pressoir, vous espériez obtenir 1 hectolitre de vin et vous trouviez que 40 litres. Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies, des céréales, par la grêle, mais vous n'êtes pas revenu à moi, l'Éternel le déclare. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, et il prend date, hein, à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans le grenier ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit, mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous tous. Vous voyez, toutes ces choses vous seront données en plus. À partir du jour où vous avez commencé le travail. Voyez, c'est ça que le Seigneur demande, qu'on s'y mette. Il demande pas, il va pas attendre que nous ayons fini. Il va pas attendre que nous soyons parfaits pour nous bénir. Il va donner sa bénédiction. Alors là, je vais partir un peu... Il y a une considération, quelque chose que j'ai lu sur les églises, et notamment sur les églises évangéliques, que je voudrais vous partager. Il y a des études qui ont été faites alors, en Amérique, hein, évidemment. En France, il n'y a pas des études de grande ampleur, ou alors ça ne fait que commencer. C'est les anges qui vous font, vous savez, les sonneries de musique angélique, là. Bon. Je me souviens d'un pasteur dans un congrès baptiste, c'était très drôle. Il était en train de prier et il disait « Nous écoutons ta voix, Seigneur ». Et juste à ce moment-là, il y a un téléphone portable qui sonne. Et il dit « Et nous n'écoutons pas la voix du monde ». Voilà. Ça fait rien, on n'en veut personne. Mais il faut que je récupère, excuse-moi. Alors, les études disent, sur le genre d'église que nous sommes, qu'elles existent en moyenne pendant 80 ans. Vous savez, on est de genre d'église qui a tendance à... ça apparaît, ça disparaît. 80 ans. Alors, nous, on existe depuis 35 ans, on a encore un peu de marge. C'est une moyenne, hein. Rassurez-vous, l'église de Baptiste de Denain a fêté ses 150 ans il y a quelque temps. À Béthune aussi, où je suis, la première mention qu'on a, c'est 1882. Donc, il y a moyen de faire mieux. Hein. Mais, en gros, le processus habituel, quoi, en gros, c'est ceci. Il y a 3 générations en 80 ans. La première génération, c'est celle des pionniers, celle qui construit l'Église. La deuxième génération, c'est la génération des conservateurs qui conservent l'Église. Et puis la troisième génération, c'est simplement les mêmes qui vieillissent jusqu'à ce que ça disparaisse. Est-ce que nous souhaitons qu'il nous arrive ce genre de choses ? On ne souhaite pas. Bon, peu importe, hein, si le Saint-Esprit ne trouve pas chez nous de quoi revivifier sans cesse l'Église, il va la vivifier ailleurs, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, si une Église disparaît, il y en a une autre qui va apparaître ailleurs. Mais enfin, ce n'est quand même pas notre travail de laisser faire ce processus. Alors, qu'en est-il dans notre Église ? Si je dis ça, c'est parce que je pense que nous sommes maintenant à la fin de la génération des pionniers. Je suis désolé, je ne veux pas vous enterrer trop vite. Oui, parce que je m'enterre aussi. Mais parmi les pionniers de cette Église, j'étais parmi les plus jeunes. Hein. Et je suis moins jeune maintenant. Moi, je veux vous... la première équipe dirigeante de cette Église, c'était Jean Lénard, qui est toujours là, mais qui est très âgé. C'était Wadek Kozak, qui est décédé. C'était mon papa, qui est décédé. Et Jean-Michel, qui est toujours là. On a bien cru cet été qu'il allait peut-être mourir, mais en fait, il est ressuscité. Enfin, comme quoi, on a toujours des surprises, on ne sait pas. Mais bon, c'est quand même Jean-Michel est le dernier représentant de l'équipe de départ. Après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Et parmi ceux qui étaient au début de l'Église, quand même, l'équipe commence à se réduire. On est à la fin de l'équipe des pionniers. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une génération de conservateurs ? Ça peut, hein. Moi, j'ai eu, à certains moments dans cette église, je le dis aux plus jeunes, pour vous, l'église a toujours existé. Elle a toujours été là. Et donc, il s'installe un peu dans la tête le sentiment que l'église, elle est là, quoi. C'est un fait établi, c'était avant, ce sera après. Les pionniers savent que ce n'est pas vrai, que l'Église n'a pas toujours été là, qu'elle ne s'est pas construite si facilement, qu'il y a eu des hauts et des bas, des crises, etc. Voilà. Et donc, il y a un danger de laisser s'installer un esprit conservateur. Nous allons continuer l'Église. Vous allez continuer rien du tout. Sinon, on va entrer dans ce processus. Vous voyez, ce processus qui sera un processus. C'est long. Une Église, ça ne meurt pas facilement. Parce que, justement, quand on est conservateur, on conserve. C'est vrai, et on conserve longtemps. Et jusqu'à sa mort, des fois, on peut conserver, tenir les choses telles qu'elles étaient. On ne veut pas que ça change. Une église, ça met longtemps à mourir. Bon, quelquefois, ça peut ressusciter aussi. Moi, il faut voir l'église d'Auchel. Hein. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, moi qui suis plus près maintenant, je vois. L'église d'Auchel aussi, qui a connu un réveil en 1880. Un réveil qui fait qu'ils ont construit un temple. Qui est encore le bâtiment actuel. Elle était finie, cette église. Elle était finie. Il restait 3 personnes qui se réunissaient dans une maison une fois par mois. Voilà ce qui restait de l'église d'Auchel. Et elle est en train de revivre, de reprendre. Donc ouais, tous les espoirs sont permis. Hein. Tout est toujours permis. Parce que quoi que ce soit que notre attitude mauvaise, si on se repent, ça rachète tout. La repentance... permet tous les renouveaux et tous les espoirs. Donc, il n'y a pas de fatalité, jamais. Mais ce n'est pas la peine aussi de se fourvoyer exprès en disant peut-être un jour, quand on y pensera, on va se repentir. Non, il faut commencer tout de suite par s'accorder une mentalité qui soit selon Dieu. Et vous savez, la mentalité selon Dieu, elle est toujours en forme de mort et de résurrection, justement. Parce qu'il faut toujours que quelque chose meure. Il faut toujours savoir renoncer à quelque chose pour que quelque chose de nouveau émerge. Et c'est un travail qui ne va pas de soi. Il faut discerner. Il faut discerner quand est-ce que c'est le moment de laisser émerger quelque chose. Âgé dit c'est le moment. C'est la fonction prophétique. Moi, j'aime bien cette association de personnages, vous voyez, parce que l'un de mes dadas, c'est qu'il y a des ministères différents, donc ils apprennent à collaborer. Vous avez le prophète. Vous savez ce qu'il dit ? Le prophète, il connaît, il comprend le temps de Dieu. Il dit, c'est maintenant qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Après, vous avez le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est celui qui sait comment il faut faire, parce qu'il a été formé pour ça. Il sait comment il faut reconstruire le temple. Celui qui sait comment il faut gérer une église. Et puis, vous avez le gouverneur, c'est lui qui a le pouvoir pour mobiliser les gens. Il dit, allez, on y va, on se met au travail, etc. C'est le leader. Vous savez, c'est 3 fonctions différentes. L'un des problèmes de notre époque, c'est qu'on veut absolument que le pasteur il sache faire les 3. Voilà. Et c'est de moins en moins vrai. Et à mon avis, ça n'a jamais été vraiment vrai. Donc, il faut apprendre à ce qu'il y ait des ministères différents et qu'ils se coordonnent et qu'ils sachent bien fonctionner ensemble. Donc, comme vous n'êtes pas encore décidé à vieillir, enfin certains si, puis qui, de toute façon, c'est le cas, puis c'est comme ça, mais vous n'êtes pas décidé encore à laisser vieillir l'Église, peut-être. Mais moi, je veux vous mettre en garde contre le danger de devenir conservateur. De toute façon, on est une Église trop petite, je crois qu'on n'y survivrait pas. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, que la... Que la parole de Dieu nous soit adressée. Et pour ça, il faut être comme ce peuple, il faut être conscient de sa fragilité, conscient de ses insuffisances, conscient de ses impuretés, et pour autant pas découragé. Pour autant, oh bon, c'est pas le temps de se lancer dans des choses. On peut pas, regardez-nous comme on est. Et je ne vais pas vous dire si on peut. Je vais vous dire si l'Éternel nous dit d'aller, il nous dit de nous mettre au travail et il nous promet qu'il est avec nous et qu'il nous donne sa bénédiction si on le fait. Voilà. Après, il y a les promesses de prospérité, mais c'est... Pour moi, c'est une chose, parce que je veux finir là-dessus aussi, parce qu'on a tellement besoin de ça quand même. Si on a des problèmes de famille, on a besoin quand même que ça aille mieux. Si on n'a pas de travail, on a quand même besoin. Si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de santé, si on a quand même besoin qu'il se passe quelque chose. Et moi, je veux dire, il n'y a pas de gêne à demander. Il faut demander. Il faut demander au Seigneur. Mais il y a tellement de choses, tellement de manières de demander. Vous savez, on peut demander avec un esprit de désir, de convoitise, vous voyez, demander pour soi-même. Il faut d'abord se mettre au service. Moi, j'aime bien, c'est dans Ésaïe 58, il dit, je ne vais pas vous lire Ésaïe 58, vous faites des jeûnes, mais le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur, ben, c'est de pratiquer la justice, en quelque sorte. Et si vous pratiquez la justice, il dit, ta guérison viendra en chemin. Moi, j'ai reçu fortement un jour cette parole. Si vous marchez selon la justice, si vous avez à cœur, si votre priorité dans la vie, c'est de construire le temple du Seigneur, c'est-à-dire votre communion avec le Seigneur, vous-même, dans votre chambre, chez vous, dans votre famille, ici, dans l'Église, si votre priorité dans la vie, c'est ça, alors il y a aussi une promesse, ta guérison, elle va venir en chemin, en route, pendant que tu es en route avec le Seigneur. Amen.
Merci à David pour ce message.